Chapitre 12. Le cours de la rivière.
Continue tout droit.
Tu es sûr?
Continue, je te dis. Tu me fais confiance, oui ou non?
Oui, bien entendu, mais...
Alors ne touche pas à ton bandeau et continue de marcher.
Il sentait du sable sous ses pieds nus, de plus en plus mou, de plus en plus mouillé. Il n'avait qu'une envie, retirer ce foulard avec lequel Louponero lui avait bandé les yeux. La rivière était là, tout près. Un pas de plus, et il basculait.
C'est toi qui es venu me trouver, poursuivit Louponero. C'est toi qui as insisté pour que je te dévoile les secrets de la forêt. À l'écouter, à la sentir, à apprendre ce qu'on n'apprend pas dans les cours du château.
Tu peux décider d'arrêter quand tu veux.
Tu n'as qu'à...
Il ne le laissa pas finir et fit courageusement un pas en avant pour bien montrer sa détermination à poursuivre l'apprentissage. Il s'attendait à ce que ses pieds s'enfoncent dans l'eau, à ce que la rivière lui morde les chevilles. Il n'était pourtant encore que sur les berges meubles.
« Arrête-toi, »
fit Louponero.
« Arrête même de respirer. Et écoute. »
Ils laissèrent passer un long silence. Il ne percevait que des taches colorées qui traversaient son bandeau, sans doute les rayons du soleil entre les branches d'arbres de la forêt.
« Alors ?» demanda enfin Louponero. « Qu'entends-tu ? »
Ce n'était pas bien difficile.
« De l'eau qui coule ?»«
Exact. À quoi te fait penser l'eau qui coule ?» Il se tortilla un peu tout en imaginant la rivière, le lac, la cascade.
« Eh bien, c'est joli ?»«
Non, ce n'est pas joli. Tu as les yeux bandés. Tu ne peux rien voir. Alors, fais un effort. Oublie le paysage même dans ta tête. Et dis-moi, à quoi te fait penser cette eau qui coule ?» N'hésite pas, sois spontané. Dis-moi seulement ce à quoi tu penses en premier. »
Il parut soulagé et cessa de se tortiller.
« Elle me donne envie de faire pipi. »
Un instant, il crut avoir donné la bonne réponse, après tout c'était vrai, et c'était un ressenti comme un autre, naturel, puissant.
« T'es sérieux ou tu te moques de moi ?»
Aïe. Il comprit que ce n'était pas du tout ce qu'attendait Louponero.
« Non, non, je plaisantais. »«
Je perds mon temps avec toi. »
Il entendit Louponero s'approcher pour lui ôter le bandeau qu'il avait noué devant ses yeux. C'était seulement leur cinquième séance. Ils se rendaient dans la forêt une fois par semaine, dans le plus grand secret.
« Non, non !»
articula-t-il aussi vite qu'il le put.
« L'eau qui coule me fait penser... à une force. Une force inépuisable. Un peu comme celle du vent, ou du soleil. »
Il sentit que Louponero s'était arrêté.
Et alors,
si tu habitais dans la forêt, que ferais-tu de cette force?
Eh ben, je viendrais construire une cabane, ici, près de la rivière, assez haut pour ne pas être inondé. Et à côté, je construirais un moulin en bois, juste une roue, pour produire de l'énergie.
De l'énergie? Tu veux prendre l'énergie de la rivière?
Non, non, je ne la prends pas. La rivière ne coulera pas moins vite avec ma roue. Ça ne change rien pour elle. Je me contente d'utiliser sa force. Elle ne sert à rien, autant qu'elle soit utile à quelque chose.
Utile?
Oui, utile. À faire tourner une meule pour écraser des grains, par exemple. Ou même produire de l'électricité.
Elle te servirait à quoi? Cette électricité.
Il devinait le terrain sur lequel Louponero voulait l'entraîner.
Peu importe à quoi elle me servirait. Ce qui est important, c'est de produire une énergie qui soit propre, qui ne laisse aucun déchet, qui soit soit renouvelable, qui soit aussi naturel que les courants qui aident les poissons à nager, que le vent qui aide les oiseaux à planer.
Tu ne m'as pas répondu. À quoi te servirait cette électricité ?
Je ne sais pas. Par exemple, à m'éclairer quand il fait nuit.
Luponero tournait autour de lui. Quand il le croyait devant lui, sa voix le frappait dans son dos.
Tu penses que les animaux éclairent la nuit ? Pourquoi aurait-on besoin d'éclairer la nuit ? Tout est simple. On vit le jour à la lumière et on dort la nuit. Pourquoi tout compliquer ?
Il se mordit les lèvres.
Ok, Lupo,
pensa-t-il.
Bien joué.
Je vois où tu veux m'emmener, mais je n'ai pas dit mon dernier mot.
Le moulin, l'électricité, l'énergie de la rivière peuvent aussi aider à réaliser des travaux durs, transporter des choses lourdes, par exemple.
La voix de Luponero l'atteignit cette fois sur le côté, en plein dans l'oreille gauche.
Tu as des bras pour cela, et des jambes. Si tu ne t'en sers pas, tu deviendras moins fort au fil des années, des siècles, des milliers d'années qui passent. Chaque enfant qui naîtra sera moins fort que ses parents.
Non,
se força-t-il à se convaincre.
Lupo n'a pas réponse à tout. Pas si on fait du sport.
Ainsi, c'est pour cela que tu construirais un moulin, pour t'épargner des activités physiques fatigantes.
Mais puisque ton corps a besoin d'activités physiques fatigantes, tu vas te mettre à courir pour aller nulle part, à soulever des objets qui ne servent à rien, à nager sans but. N'est-ce pas étrange ?
Si, bien sûr, vu sous cet angle, et il avait de plus en plus envie de faire pipi.
Un moulin, l'électricité peut aussi servir à se chauffer quand il fait froid.
Tu pourrais te cacher sous une fourrure, ou faire un feu.
Cette fois,
jubila-t-il intérieurement.
L'argument de Lupo est idiot, je le tiens. Quelle différence entre un feu et de l'électricité produite par une rivière ? Un feu consomme du bois, fait de la fumée. C'est plus polluant, non ?
Luponero s'était encore déplacé. Il s'adressait maintenant à son oreille droite.
Sais-tu que, dans le monde d'avant, les gens aimaient aller dans des endroits qu'on appelait des bars ? Pour boire. C'était souvent de très jolis endroits, et quand il faisait beau, les gens avaient pris l'habitude de boire dehors, en terrasse comme on disait. Puis, comme ils aimaient tellement boire en terrasse, ils se sont mis à continuer de boire dehors, même en hiver. Et quand il faisait très froid, eh bien, ils chauffaient dehors, alors que les jolis bars à l'intérieur étaient vides.
Tu comprends ce que je veux dire ? Que penses-tu de cette histoire ?
Il en pensait surtout qu'il allait finir par faire pipi dans sa culotte, avec cette rivière qui coulait sans arrêt à côté de lui, mais que, s'il l'avouait à Lupo, plus jamais il ne le laisserait venir discuter avec lui.
Retiens cela, continua Luponero, ne retiens que cela de notre conversation d'aujourd'hui.
On ne renonce jamais au confort. Une fois qu'on y a goûté.
Jamais.
On ne revient jamais en arrière. Quand les hommes ont inventé le train ou la voiture, ils ont cessé de marcher. Si un jour on apprenait à voler, plus aucun homme n'accepterait de se traîner sur les chemins comme un ver de terre. C'est pour cela que le progrès est dangereux. Il ne nous rend pas plus heureux. Il nous rend dépendants.
Je comprends.
Non. Pas encore, mais cela viendra, peut-être.
Je me demande pourquoi tu veux apprendre tout cela.
Et toi, c'est ton père qui t'a transmis toutes ces théories ?
Tu peux retirer ton bandeau maintenant.
Il le retira et se précipita pour aller se soulager derrière un grand sapin.
Parle-moi de ton père,
fit-il en revenant.
Luponero était agenouillé devant la rivière et agitait ses mains dans l'eau pour attirer les poissons.
« Une autre fois, » fit-il sans relever la tête. « Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi es-tu là ? Pourquoi viens-tu me voir chaque semaine ? Je suis persuadé que personne n'est au courant que tu es là, n'est-ce pas ?»«
Personne. C'est mon secret. Et toi, ton secret. Pourquoi ne pas le révéler? Un jour, forcément, tout le monde saura qui tu es.
Une dizaine de poissons venaient déjà sucer le bout des doigts de Louponero. L'enfant sauvage entra dans l'eau alors qu'un banc de poissons s'agglutinait autour de lui, si serré qu'il aurait presque pu s'y asseoir.
Un jour, reprit Louponero, toi aussi tout le monde saura qui tu es. Qui tu es vraiment?
Et il plongea. Il réfléchissait encore aux propos de Louponero sur la route du retour. Les arguments de l'enfant sauvage l'avaient ébranlé. Le progrès était-il à ce point nécessaire dans le monde nouveau qu'il construisait? Les idées de Louponero étaient trop extrêmes, mais n'était-ce pas la seule solution pour ne pas reproduire les erreurs du passé? Il marchait de plus en plus vite. Désormais, il connaissait les raccourcis qui lui permettaient de sortir plus vite de la forêt sans risquer de croiser d'autres ados. Passer entre les racines des grands châtaigniers jumeaux, viser le chêne au large tronc, prendre le sentier tracé entre les fougères sur la droite, il s'arrêta soudain. Quelqu'un s'était installé, une dizaine de mètres plus bas, dans un trou entre deux rochers. Tout de suite, l'odeur de putréfaction emplit ses narines. Des cadavres d'animaux étaient entassés devant la grotte, à peine dépecés. De l'eau croupie avait été recueillie dans des troncs d'arbres creux. On devinait que quelqu'un essayait de survivre ici, mais la chaleur rendait très difficile la conservation de la moindre nourriture, même de l'eau fraîche. Qui pouvait se cacher là? Il rampa pour s'approcher un peu de la caverne sans se faire repérer. Il vit d'abord la cape de plumes noires et blanches accrochée à une branche d'arbre, tel un oiseau mort. Les plumes tombaient une à une. Le costume de Bill. Il découvrit ensuite une forme sombre au fond de la caverne. Une forme qui bougeait un peu si l'on se donnait la peine d'attendre longtemps pour l'observer. Il avait gagné en patience depuis qu'il était formé par Louponero. Sa vue aussi avait gagné en acuité. Il reconnaissait la robe noire, sale, les mèches de cheveux blancs. Mordelia. Mordelia vivait dans ce trou. Mordelia était en train d'y mourir comme une bête sauvage qui s'enterre vivante parce qu'elle ne peut plus échapper à ses prédateurs. Bill devait être parti chasser ou ramasser de l'eau, des fruits. Il était le dernier compagnon de la sorcière déchue. Il rampa à reculons. Il songea qu'il lui serait impossible de parler de sa découverte au château ou au tipi, car immanquablement, on lui demanderait ce qu'il faisait seul en pleine journée dans la forêt. Son apprentissage avec Louponero devait rester secret. Mais il était également impossible de laisser Mordelia mourir ainsi. Il s'éloigna rapidement de la grotte. Moins de 5 minutes de marche plus tard, il apercevait déjà les premières tours de la ville. Il prit la direction des immeubles de verre abandonnés, sans cesser de réfléchir. Quand il fut parvenu au fleuve, avant même de franchir le pont, il avait trouvé la meilleure solution. Adresser un courrier anonyme au conseil, en indiquant avec précision la position du camp de Bill et Mordelia, et en ajoutant qu'ils n'allaient pas survivre si on ne venait pas très vite à leur secours.